Bonjour et bienvenue à tous dans la matinale
infernale.
Et oui, la matinale infernale, c'est l'émission de Graphite qui dynamite votre réveil, en partenariat avec les bibliothèques de Compiègne. Et certaines écoles, selon les années, on tourne un petit peu, cette année on a eu le lycée Pierre Dailly. Le principe de cette émission est de former des amateurs de divers horizons à la création de chroniques pour la radio, à travers une série d'ateliers, à la bibliothèque ou en classe. Ensuite, nous enregistrons les productions des participants sous forme d'émission, notre matinale infernale. Moi, c'est Aurore, j'anime ou participe déjà à d'autres émissions sur Graphite comme La Voix de la Plume ou les rendez-vous culture et séries des bibliothèques de Compiègne. Ce matin, avec moi, ce sont les participants d'ateliers organisés à la bibliothèque Saint-Corneille tous les mercredis soirs qui sont là. Je souhaite la bienvenue dans le studio à Bertil.
Bonjour.
Fatih, la féministe.
Hello.
Batcave et Martin, notre étoile filante.
Salut.
Nous avons aussi des spectateurs aujourd'hui, Marion et Emma qui sont avec nous. Ce sera la dernière émission de la saison. Je rappelle quand même que nous clôturons la troisième saison de La Matinale Infernale. Nous ouvrons d'ailleurs les inscriptions pour la saison 4. Avis à ceux qui voudraient en savoir plus sur le fonctionnement d'une radio, sur l'écriture de chroniques et qui seraient tout simplement curieux de participer à notre émission. Vous pouvez vous inscrire en appelant les bibliothèques de Compiègne ou mieux encore, en y passant.
Venez, venez.
Mais oui, l'ambiance elle est sympa.
Oui, c'est super sympa.
Oui.
Je confirme.
Ah, super. Eh bien, ce matin, on entame nos chroniques par un sujet profond. Vos neurones ne sont pas encore bien réveillés. Eh bien, tant mieux, puisque je parlais littéralement de profondeur. Je laisserai Bertil nous embarquer avec elle.
Bonjour auditrices, auditeurs. Aujourd'hui, je vous propose un petit voyage dans le monde des océans et des abysses. L'intérêt porté aux océans et aux abysses est inédit. D'abord parce que les océans et les fonds marins jouent un rôle essentiel dans la machine climatique. Mais aussi parce que les océans et les abysses contiennent des métaux stratégiques pour l'industrie actuelle, en tout 17 ressources minérales spécifiques. Les premiers trésors des fonds marins, ce sont des animaux à couper le souffle, dont la plupart produisent de la lumière comme des lucioles. Les nouveaux engins qui explorent les fonds marins ont vu danser des étincelles, des guirlandes et des feux follets dans le noir intense. Une lumière vivante appelée la bioluminescence. Qui sont-ils ? Des zooplanctons, des méduses, des crevettes. La bioluminescence est aussi l'affaire de poissons, petits, gros ou très gros. La star est la baudroie des abysses avec sa gueule démesurée qui ressemble à un dragon éclairé. Jules Verne, dans son roman 20 000 lieues sous les mers, a décrit le calmar géant, mais la réalité est encore plus fantastique. Le calmar géant, qui existe à 1500 mètres de profondeur, mesure jusqu'à 18 mètres de long, tentacules étendus, 8 bras et 2 tentacules de 15 mètres chacune. Voyons les différentes profondeurs des océans. La surface jusqu'à 200 mètres de profondeur capte la lumière du soleil. Du phytoplancton y prolifère et forme un matelas d'algues microscopiques. De 200 à 1000 mètres, profondeur maximale pour les sous-marins, qui est l'antichambre des abysses. Entre 1000 et 6000 mètres existent des plaines abyssales, l'eau y est extrêmement froide et la pression dantesque. Enfin, de 6000 mètres jusqu'à 12 000 mètres, 12 km de profondeur, c'est la zone des fosses océaniques où il y a encore de la vie. Il est plus qu'important de se rappeler que l'océan est un buvard à chaleur et une pompe à carbone. Le réchauffement dû à l'activité humaine, confère le rapport du GIEC de mars 22, est de plus en plus inquiétant. C'est comme la fièvre. Un degré de plus, c'est gérable. Deux, vous restez au lit. Trois ou quatre, vous êtes en réanimation. Dans ce thermostat global, l'océan joue un rôle prépondérant. Il limite le réchauffement en captant plus de 90% de la chaleur additionnelle générée par les activités humaines et absorbe un quart des émissions de CO2. Savez-vous que l'océan renferme des câbles sous-marins de fibre optique qui, mis bout à bout, représentent une distance cumulée de 1,3 million de kilomètres ?
Ah oui, quand même.
Ah ouais.
Quoi ?
Par eux transitent 98% des données internationales de la toile mondiale. Et ce n'est pas fini. Assez mariné, il est temps de parler des différents types de gisements de grande profondeur, sujet d'actualité internationale. Outre le pétrole dont on essaie désormais de se détourner, il y en a trois qui intéressent beaucoup l'industrie actuelle. Un peu compliqué. Les nodules, les amas sulfurés au pied de volcans qui gloutonnent au fond des mers et les encroûtements agglomérés sur les flancs des montagnes sous-marines. Ainsi, ces gisements renferment plein de métaux pour l'industrie électronique, batteries, smartphones, panneaux solaires. Mais pour ramasser les nodules, sortes de petites patates hyper riches en métaux, il faut des sortes de moissonneuses-batteuses. Pour les amas, il faut des grosses gratteuses. Quant aux encroûtements, il faut labourer de très grandes surfaces. Toutes ces techniques sont très polluantes, bruyantes, et leur utilisation à grande échelle entraînerait une dégradation du milieu avec des conséquences écologiques désastreuses. Alors, faut-il aller chercher la matière première dans les abysses, ces lieux peinards depuis toujours ? Est-il possible d'exploiter les fonds marins ce jour ? Outre les deux bandes jusqu'à 300 km au-delà des côtes où les règles du pays riverain s'appliquent, il y a une troisième bande, la haute mer, qui n'appartient à personne. On l'appelle la zone, dont les ressources sont reconnues patrimoine commun de l'humanité. C'est là qu'intervient l'Autorité internationale des fonds marins, AIFM, en Jamaïque, créée en 1994, qui compte 164 membres. C'est elle qui délivre ou non des autorisations pour l'exploration des grands fonds aux scientifiques, mais aucun permis n'a encore été délivré pour l'exploitation industrielle. Autrement dit, il est encore possible d'agir sur la réglementation au profit de l'environnement. Affaire à suivre. Grâce à ce partage des eaux, la France s'est retrouvée avec le deuxième espace maritime au monde en raison de ses territoires ultramarins. Elle peut donc jouer les locomotives dans la protection des grands fonds marins. Mais elle pourrait aussi exploiter son immense zone marine et entraîner ainsi un mouvement mondial d'exploitation des ressources des fonds marins, avec les risques écologiques dont je vous ai parlé. L'avenir proche le dira. Dans une prochaine chronique, je vous parlerai de la recherche de la vie sur les exoplanètes. Où en sommes-nous des extraterrestres ? Alors, à bientôt !
Merci beaucoup Bertil. C'est toujours passionnant, je trouve, la façon que tu as de nous expliquer l'infini, qu'il soit grand, petit ou profond, en l'occurrence. D'ailleurs, moi j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui est loin de nous et qui a une influence sur nos océans ?
La Lune.
La Lune.
Ah, bah oui, mais c'est de la triche, Martin.
C'était la transition.
Oui, mais quand même, c'était une question dans...
Très bonne.
Très bonne réponse aussi.
Dans ma chronique.
Eh bien, Martin, ça va être à toi.
Salut tout le monde, comment allez-vous ?
Très bien.
Bien.
Bien. Chaudement.
D'habitude, vous répondez pas. Aujourd'hui, c'est la Lune, comme promis la dernière fois. La Lune intrigue les hommes depuis la nuit des temps, sans doute parce qu'elle est le corps céleste le plus visible dans le ciel, après le Soleil. Et elle est l'objet le plus lumineux dans le ciel, mais ne fait pas de lumière, car elle agit comme un miroir. Pour la lumière du soleil. On pense qu'elle s'est formée il y a à peu près 4,51 milliards d'années, peu de temps après la Terre, avec la frappe d'un gros astéroïde sur la Terre, puis de l'agglomération de ses débris. Dur à dire. La Lune n'est pas une planète, mais bien le satellite naturel et fait sa révolution autour de la Terre. Elle met 27 jours, 7 heures et 43 minutes pour faire le tour de la Terre. Petite question pour commencer un quiz. Quelle est sa température ?
Très froide.
Ouais, c'est pas la réponse que j'attendais.
Dis-nous.
Bon, elle est de soit moins 233, soit de moins 123 degrés Celsius.
Excuse.
Donc froide, du coup.
Oui, donc froide. Vraiment froide.
Très froide. Je l'ai.
C'est pas la réponse que j'attendais. Y a-t-il de l'eau sur la Lune?
Bon, moi, je dirais oui, mais pas sous forme liquide. Mais moi, je dirais oui.
Oui.
Glacé. Non, mais il y a bien des mers de magma refroidie. Maintenant, quelle est la plus connue?
Des mers
La plus connue non. Des mers de magma.
De la Lune.
De la Lune.
Bah, du coup, on donne notre langue au chat, vu qu'on savait pas.
Bah, c'est la mer de la tranquillité.
Ah bah oui.
Ah bah oui.
Bah, vu que vous savez pas, vous êtes pas censé savoir.
Si, j'en ai entendu parler.
Si, c'est des noms qu'on entend. Après, on l'aurait pas remis dans le contexte, tu vois.
Combien de personnes ont marché sur la Lune?
Ouf. 12. C'est ce qu'on avait dit.
Moi, j'avais 14. Dit 2, je crois. 2. Mais
bah, qui est
Fatih
dans le module.
Ouais, c'est ça.
Fatih, elle l'a dit.
Elle a dit quoi, Fatih?
Bah, elle a dit 12 personnes. Il y a 12 personnes. Donc Neil Armstrong, Buzz Aldrin et 10 autres personnes qui ont marché sur la Lune entre 1969 et 1972 avec la mission Apollo. Mais il n'y en a pas eu depuis.
Hey, incroyable.
Une petite pause, quoi.
À votre avis, est-on plus léger, aussi lourd ou plus lourd sur la Lune ?
Plus léger, moi je me souviens de Tintin qui fait des
bons. Ah, c'est Tintin.
Ouais, cette fois c'est Tintin.
Oui, mais combien de fois plus?
Léger
6 8 fois 6 fois.
Et oui, c'est 6 fois plus léger.
Notre spécialiste en physique.
Oui, Bertil.
Elle était obligée de le savoir en même temps. La Lune se rapproche ou s'éloigne-t-elle de la Terre?
Ben écoute, moi j'espère juste qu'elle se rapproche pas, mais j'en sais rien.
À une vitesse.
Bah, encore une fois, Bertil l'a dit.
4 cm par an.
3,8. Oui, c'est 3,8 cm par an.
Elle se rapproche.
Elle est forte.
La pleine Lune a-t-elle un effet sur notre sommeil, la pousse des plantes, des cheveux, les marais, etc.?
Oui,
surtout
oui,
ça.
Surtout.
Rien n'est prouvé par la science, sauf les marais. Parce qu'Aurore a posé la question tout à l'heure, tout le monde le savait.
Je n'ai pas prononcé le mot marais.
Sur les eaux.
Ouais, c'est la même chose.
Ah oui, le reste n'est pas prouvé alors.
Une info chinoise et astronomique dans les deux sens du terme. Ce 1er juin 2024, la sonde chinoise Chang'e 6 a atterri sur la face cachée de la Lune, qui est pleine de cratères, pour ramener des échantillons, en emmenant avec elle l'instrument français Dorn, ainsi que deux instruments, un italien et un suédois. À la prochaine chronique, et pour info, ce sera peut-être Mars.
Ah, tu nous le promets à chaque fois. Hein,
super.
Oui, sauf s'il n'y a pas assez d'informations.
Il y en a.
À mon avis, il y en a beaucoup, vu que déjà sur la Lune...
T'as trouvé ce qu'il fallait.
Oui.
Bien, merci beaucoup, Martin, d'avoir préparé si consciencieusement cette chronique.
De rien, beaucoup.
Et d'ailleurs, tu n'as pas fait que ça, tu as aussi choisi un morceau musical pour notre émission. Il s'agit de, je vais le dire comme ça, tu vas nous en dire un peu plus, Nightmare King, extrait de Hollow Knight, et le titre c'est Colisia. Tu nous dis un peu de quoi il s'agit et pourquoi tu as eu envie de partager ça avec nous et avec les auditeurs?
Alors, en français, c'est la musique de Grimm, roi des cauchemars, du coup. Alors, c'est une musique d'un jeu indépendant nommé Hollow Knight, qui est très connu, fait par 3 personnes et un musicien. C'est un jeu en 2D avec une assez grande difficulté où vous incarnez un petit personnage avec un aiguillon. La musique est celle de Grimm, le roi des cauchemars, comme dit précédemment. C'est sur le thème de Halloween.
Le Hollow Knight.
Voilà, je vous ai tout dit et j'ai plus présenté le jeu que la musique.
Mais oui, mais c'est normal parce que du coup, c'est la musique qui supporte le jeu.
D'ailleurs, je crois que le titre La Colosia, c'est le nom d'utilisateur de celui qui a posté sur...
Ah, d'accord.
Donc c'est pas le titre.
Ouais. Non, mais n'empêche que je l'ai trouvé à la fois sur Deezer, à la fois sur YouTube, avec ce nom-là, Colosia. Donc merci à cet utilisateur et à ce joueur d'avoir posté cette musique. Et effectivement, sur YouTube, on voit, il est en train de jouer, en fait, pendant que... Enfin, on a l'impression que c'est le jeu vidéo, donc il a peut-être pris en screen pour faire le clip... La musique, quoi. Donc,
c'est l'un des trois boss les plus durs du jeu, mais je peux pas en dire plus.
Ça marche. Eh bien, si vous avez envie de jouer à Hollow Knight, en tout cas, voici la bande originale. Et nous voici de retour dans la matinale
infernale.
Oui. Eh bien, je vais prendre la suite de cette émission. Je rappelle que c'est la dernière émission de la saison. Je suis triste, c'est pour ça que je le redis.
Oh non. C'est trop triste.
On en fera d'autres la saison prochaine, évidemment.
Ouais.
Youpi.
Eh bien, donc, moi, je continue avec les erreurs de débutants des auteurs. Don't write me off just yet. La description, plutôt du genre à aimer et à en réclamer pour bien se représenter ce que l'auteur a en tête, ou à soupirer parce que vous trouvez ça saoulant.
Une description ?
Ça dépend des descriptions.
Ça dépend des auteurs. Quoi. Moi, je me souviens, certains Zola, je crois, c'était les chapitres entiers descriptifs. Et au bout d'un moment, on n'est plus dans l'histoire.
Ouais, mais dans Le Bonheur des Dames de Zola, de connaître tous les tissus, tu vois, tous différents, moi, j'ai trouvé ça passionnant. Vraiment. Bon, j'ai rien retenu, par contre.
Ah, ok, super.
Donc c'est passionnant, c'est vrai.
Eh bien, je pense qu'il est essentiel de décrire des choses dans une histoire. Évidemment, c'est ce qui nous permet à nous, lecteurs, de construire un film mental, de se représenter un décor, un visage, une ambiance. Dans une précédente chronique, j'ai déjà abordé d'ailleurs le point sous l'angle des personnages. Cette fois-ci, je m'attaque à la description de lieu. Avec une description en bonne et due forme, les lecteurs pourraient voir exactement ce que l'auteur a vu en écrivant. Eh bien non. Non, non, c'est une erreur de débutant de penser ça. Ne vous leurrez pas. Les lecteurs ne verront jamais, je dis bien jamais, exactement ce que vous, auteur, vous avez en tête. Alors pourquoi ? Eh bien, parce que on écrit, et l'imaginaire est propre à chacun. Il est forgé par un environnement propre et des sources aussi universelles que personnelles. Et c'est pas grave. Au contraire, c'est ce qui rend la littérature encore plus riche. Chacun va décrypter les pages avec son propre univers en tête, ses expériences, son vécu, sa culture, tout en essayant de s'introduire dans celui de l'auteur. Et que vous en mettiez trop peu ou des pages entières, ça ne changera rien. En revanche, vous pouvez largement aiguiller vos lecteurs vers l'univers que vous souhaitez leur faire découvrir. Revenons donc au cas des descriptions de lieux. Si vous avez choisi un point de vue interne, eh bien décrivez votre lieu à travers les yeux de votre personnage. Ce qu'il voit, ce qui le frappe tout de suite au premier abord. Tout ça va déterminer une ambiance globale. Est-ce que son regard s'accroche sur un ou deux détails marquants ? Lesquels ? Que disent ces détails sur le décor qui entoure votre personnage ? Vous n'avez pas besoin d'en écrire des pages, des chapitres entiers. Deux phrases peuvent faire l'affaire, ou un petit paragraphe, si vous choisissez bien vos mots et vos détails avec soin. L'idée n'est pas de noyer le lecteur, comme on disait tout à l'heure, mais bien de le mettre au parfum. D'ailleurs, n'hésitez pas à utiliser tous les sens de votre personnage. La vue, c'est bien, mais il y a les autres sens. L'odorat. Une bonne odeur de gigot qui cuit dans le four en dit aussi long sur un hôte qu'une odeur pestilentielle peut dégoûter. Le toucher. Un doux tissu de velours épais ne présage pas les mêmes choses qu'un mur rêche et brut. L'ouïe, on peut facilement se laisser envoûter par une musique douce et langoureuse, tandis qu'un tintement crissant de métal jouera sur nos nerfs. Et le goût, peut-être un petit peu plus difficile à placer pour une description de lieu, mais on ne sait jamais. Cette description par les sens contribue à ce que j'appelle l'expérience du décor. Faites naviguer vos personnages à travers le lieu, continuez de raconter votre histoire, n'interrompez pas spécialement votre récit pour introduire une longue description. Incorporez plutôt les éléments de description dans votre récit. Soyez subtil, faites-le vivre, ce décor. Par exemple, ne dites pas « un haut mur d'enceinte le séparait de sa liberté ». Bon, pourquoi pas ? Mais moi j'aurais plutôt dit « sa pomme traînait le long de la pierre rugueuse » tandis qu'il marchait le long de cet interminable mur d'enceinte, son regard se perdait vers le ciel, où le mur prenait fin et où sa liberté commençait.
Wow. Oh ouais, là, ça n'a rien à voir.
Merci. Mais voilà, tout ça pour dire que la description doit venir appuyer votre récit sans l'alourdir. Elle vient l'étayer, lui donner une substance, elle doit se fondre dans l'histoire pour rester agréable au lecteur. C'est un outil qu'il est difficile de manier, mais à mon sens, il reste indispensable, chers amis passionnés d'écriture. Donc maintenant aussi, vous, lecteurs, quand vous lirez, vous faites attention à la description, comment elle est placée.
Merci Aurore pour tous ces conseils.
Oh, de rien.
On n'a plus qu'à écrire.
Merci. Ça tombe bien, vous faites des ateliers d'écriture.
Je ne compte pas écrire un livre, mais c'est très intéressant quand même.
Ah, merci Marthe. Eh bien, maintenant, place à un sujet de société avec notre amie Fatih, la féministe.
Hello tout le monde, petite chronique du matin, histoire de bien commencer la journée pour vous parler du féminisme. Et oui, encore et toujours, du féminisme et du sexisme qui sont intimement liés. Oui, je sais encore, mais promis juré, l'année prochaine, je vous apporterai des infos sur le féminisme d'hier et d'aujourd'hui, sur les femmes d'hier et d'aujourd'hui qui ont marqué l'histoire, et aussi sur des solutions pour plus d'égalité entre les filles et les garçons. Mais revenons à nos moutons. Actuellement, selon le Conseil de l'Europe, trois types de sexisme cohabitent. Le traditionnel, le moderne et le néo-sexisme. Sexisme traditionnel, il y a quand les rôles traditionnels assignés aux femmes et aux hommes sont favorisés. quand les femmes sont moins bien traitées que les hommes, au niveau médical par exemple. « Ah, mais oui, elle est fragile, une petite nature, ce n'est qu'une femme. Oui, enfin, retire-lui son corset et tu verras qu'elle arrêtera de tomber dans les pommes. » Ou encore quand sont utilisés des stéréotypes solidement ancrés, affirmant que les femmes sont moins compétentes que les hommes. Voilà donc pourquoi tu es toujours moins payée que les hommes, avec un petit H, ma cocotte. Sexisme moderne, maintenant, il y a quand on nie la discrimination fondée sur le genre. Ça n'existerait tout simplement pas. C'est cela, oui. Ou quand la validité des revendications des femmes sont contestées. Hashtag MeToo. Mais pourquoi faire ce n'est que de la séduction, chère consoeur, prolongée par de la promotion canapé? Allez, quoi, tu étais complice de tout ça? Ma Catherine Deneuve adorée, tiens-tu toujours le même discours aujourd'hui, après la déferlante du hashtag balance ton porc ou du hashtag MeToo du cinéma français? Ceci dit, je te comprends, tu es de l'époque des valseuses, film de 1974, qui illustre à merveille le patriarcat post-68ard où la séduction du gars primait sur le consentement féminin. Tu dis non, mais ça veut dire oui. Je te viole, mais tu adores ça. Bon, tout n'est pas à jeter dans ce film. Gardons la réplique du graveleux Depardieu avec ses acolytes Miu Miu et Devauer. On n'est pas bien là, détendu du gland à la fraîche, qu'on peut même adapter en version féminine. On n'est pas bien là, détendu du clito à la fraîche. Toujours sexisme moderne, il y a quand une attitude négative à l'égard des femmes est adoptée. Allez, je dénonce par une anecdote. Une jeune fille croise un jeune homme dans la cour de récréation et ses yeux, malencontreusement ou pas, et là n'est pas la question, croisent ceux du petit gars qui se permet alors de chuchoter à l'oreille de son poteau. Elle, c'est une PDH. Traduction, bandeuse d'hommes. Et une rumeur commence à courir sur la réputation de la jeune fille. Alors, mesdames et messieurs, expliquez à vos garçons le respect d'autrui, et à vos garçons et à vos filles, la régulation et le tri dans leur consommation de porno. Vous rendriez service à la nation. Et pour terminer, néo-sexisme il y a. Quand un groupe de personnes, des hommes en général, mais pas toujours, est convaincu que les relations hiérarchiques entre les hommes et les femmes servent mieux leurs intérêts. Vous savez, les réflexions du genre, c'est quand même plus compliqué quand la chef est une femme. C'est cela, oui. Et lorsqu'un groupe estime que sa domination sur les femmes est en péril, il s'emploie à faire barrage aux idées d'égalité de genre ou à nier les difficultés auxquelles les femmes sont confrontées dans la société. Donc, vous les voyez venir, tout comme moi, ces fameux adeptes du relativisme, adeptes du « tout se vaut », kiff kiff quoi. Eh bien non, une inégalité, c'est une inégalité. Une injustice, c'est une injustice, point. La paix ne vaut pas la guerre. Le respect de l'autre ne vaut pas la même chose que l'irrespect. Tout ce qui porte atteinte à l'autre relève de la barbarie et de la domination. Nous ne sommes pas des animaux, bordel! Quoique, peut-être des animaux civilisés. Enfin, pas tous ni toutes, malheureusement. Je t'assure, homme avec un petit H, que dans une société matriarcale, je te soutiendrai et deviendrai moi-même masculiniste. Enfin, non, quand même pas. Dommage tout ça, car le féminisme, ce n'est pas un combat mené contre les hommes, mais des courants de pensée et des actions toujours pacifistes, pour plus d'égalité, d'équité et surtout d'humanité avec un grand H. Mais je comprends que quand on se voit retirer des privilèges, tel un pacha, cela est dur à accepter. En tout cas, il y a urgence, hein, pour plus d'équité aux toilettes, hein, s'il vous plaît. Nous ne voulons plus subir une queue de 3 mètres de femmes contractant leurs vessies pendant que ces messieurs assouvissent leurs besoins impérieux quasi instantanément. Vive l'équité, je vous le dis. Ou vive les toilettes, non genrées, mais dans des contrées éduquées et civilisées.
Merci Fatih. Alors moi j'ai une petite anecdote puisque tu parles de toilettes. Je joue beaucoup au poker et du coup c'est des événements qui sont souvent très, très masculins. Et du coup, eh ben, dans ces événements-là, ce sont les messieurs qui font la queue aux toilettes. Et puis nous, eh ben, on est tranquille, on est toujours que quelques femmes, donc on a toujours de la place. Et ça fait du bien en fait de pouvoir leur faire « Eh, moi ça y est, je suis
là. » Ah, je crois que je vais venir à tes parties de poker. Hein.
Non mais en tout cas merci pour cette différenciation parce que les différentes formes de sexisme pardon on les connaissait pas forcément de traditionaliste néo-sexisme et
sexisme moderne
on les distingue parfois plus. En fait, on les entend tellement dans la vie de tous les jours que des fois, on ne se rend même pas compte que c'est du sexisme. Et c'était bien de remettre, de nous les remémorer, de savoir que voilà, ils sont là, ça existe et c'est pas normal.
Non.
Et qui dit sexisme dit aussi parfois discrimination. Je crois que Batcave n'a pas dit son dernier mot à ce sujet-là avec sa chronique Post-Punk Forever.
Salut les amis, moi c'est Batcave. Laissez-moi encore plomber l'ambiance avec ma chronique post-punk. Prêt pour une nouvelle cure de spleen ? Mais si, c'est excellent pour la santé. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un classique qui transcende les genres post-punk, cold wave et new wave. Goodbye Horses, interprété par Q Lazarus en 1987, est une chanson envoûtante qui est devenue culte grâce à son association avec le thriller emblématique de Jonathan Demme, Le silence des agneaux. Vous vous souvenez de cette scène tordue où le serial killer Buffalo Bill se trémousse devant son miroir vêtu des peaux de ses victimes, tandis que cette mélodie mi-dansante, mi-cafardeuse résonne en arrière-plan. Une scène si frappante qu'elle a été parodiée des dizaines de fois, et toujours avec Goodbye Horses pour lui donner cette touche immédiatement reconnaissable. La première fois que j'ai entendu ce morceau, c'était en regardant Le silence des agneaux. Et je me demande, si je l'avais découvert dans un autre contexte, est-ce que je ressentirais cette sensation de malaise en l'écoutant ? Qu'est-ce qui rend cette chanson plutôt douce, si troublante quand elle est mise en contrepoint avec une telle horreur ? Voyons cela de plus près. Dans sa version originale, la section rythmique est assurée par une boîte à rythme et un synthétiseur jouant la partie de basse. La programmation de la boîte à rythme est puissante, sèche, grave, répétitive, évoquant une marche implacable, un destin inéluctable. La ligne de basse, simple et hypnotique, crée une nappe sonore monotone et narcotique. Sur cette basse solide se pose une mélodie minimaliste, presque enfantine, jouée sur un synthétiseur au son aigrelet, qui contraste curieusement avec le rythme lourd et oppressant. Cette juxtaposition de force et de fragilité crée une impression d'étrangeté, d'inconfort. Et puis, il y a la voix de Q Lazarus. Pendant longtemps, ce n'était pour moi qu'une voix empreinte de solitude avec des accents soul et rhythm and blues. Ce n'est que récemment que j'ai découvert que cette voix appartenait à Diane Luquet, une femme à la voix de contralto, si profonde que beaucoup comme moi ont pensé qu'il s'agissait d'un homme. Les paroles évoquent un dialogue énigmatique entre deux personnages, peut-être des amants désillusionnés, qui se conclut par cette image surréaliste « Goodbye horses, I'm flying over you ». Au revoir les chevaux, je vole au-dessus de vous. La magie de cette chanson réside autant dans sa musique que dans le mystère qui entoure son histoire et celle de son interprète. Diane Luquet, décédée en 2022, était chauffeuse de taxi à New York lorsqu'elle a enregistré Goodbye Horses. Composée par William Garvey, dont c'est l'unique production en tant que musicien, la chanson est devenue culte après sa diffusion dans Le silence des agneaux. Après ce bref moment de gloire, Diane Luquet a tenté sa chance à Londres avec un groupe, sans réussir à décrocher un contrat avec une maison de disques. Face à l'échec, elle est retournée aux États-Unis et a repris son travail de taxi, disparaissant presque entièrement de la scène musicale. En 2024, cependant, Q Lazarus refait surface. La vidéaste américano-mexicaine Eva Arigis prépare un documentaire sur sa rencontre avec Diane Luquet, retrouvée après une longue recherche. Un trailer est disponible sur YouTube pour soutenir le financement participatif de ce projet. Dans une interview de 2019, Luquet explique que, dans les années 80, aucune maison de disques new-yorkaise ne voulait parier sur une rockeuse noire. Oui, Diane Luquet était une femme noire qui a fait un succès post-punk, monté un groupe avec des musiciens blondinés à nuque longue. Ce n'était peut-être pas là que l'industrie musicale l'attendait. Dans les images de l'interview, elle apparaît hagarde, un peu parano, exprimant l'amertume d'une artiste brisée par l'échec. Étrangement, cela résonne parfaitement avec l'atmosphère crépusculaire de ce succès sans lendemain que fut Goodbye Horses. Pour conclure, rappelons que cette chanson est un titre culte qui a été repris de nombreuses fois. Parmi les bonnes reprises, mentionnons celle du groupe français Grand Blanc, traduite dans la langue de Molière par « Au revoir chevaux ». Mais pour faire écho aux paroles de Diane Luquet, je vous propose d'écouter la version de Kele Okereke, ce rocker noir qui lui a très bien réussi. Il s'agit du chanteur du groupe Block Party, figure majeure du rock britannique de la décennie 2000. Sa reprise très électro, sortie en solo en 2011, partage avec la version originale un arrangement porté par des sons synthétiques et l'expression d'une sensualité mystérieuse. Bonne écoute.
Merci beaucoup, Batcave. Et merci à mes chroniqueurs de ce matin, à tous mes chroniqueurs d'ailleurs de cette saison 3. Vous tous de l'atelier d'écriture du mercredi soir aux bibliothèques de Compiègne, mais aussi les élèves avec lesquels j'ai pu travailler cette année, notamment la seconde 13 du lycée Pierre Dailly. Je vous souhaite à tous un bel été. N'hésitez pas à vous rapprocher des bibliothèques, chers auditeurs, si vous souhaitez participer à nos ateliers à la rentrée prochaine. On se quitte en musique, comme nous l'a dit Batcave. Donc le titre c'est Goodbye Horses de Kele
Okereke.
Merci. Okereke. Et je vous dis bien sûr à bientôt dans une matinale
infernale.
I must say you're wrong. I must disagree.